Lorsque l'on évoque les antagonistes mémorables du cinéma, il est incontournable de se tourner vers le genre qui a introduit certains des méchants les plus emblématiques de notre époque, le cinéma d'horreur. Des noms tels que Michael Myers, Ghostface, Jason Voorhees sont devenus des icônes de la pop culture, partageant tous un point commun, ce sont des tueurs masqués qui sévissent en traquant et assassinant des adolescents dans des petites villes américaines isolées. Ce sous-genre cinématographique sera désigné sous le nom de slasher. Et parmi les figures emblématiques du slasher, Freddy Krueger se démarque. Avec sa peau brûlée, ses griffes acérées, il est devenu l'incarnation des cauchemars des enfants des années 80. Il est apparu pour la première fois en 1984 dans le film Nightmare on Elm Street de Wes Craven, donnant naissance à de nombreuses suites et étoffant ainsi une véritable mythologie horrifique. Aujourd'hui, Freddy est au centre de pas moins de 9 films, ainsi que de bandes dessinées et d'apparitions dans des jeux vidéo. Et à l'heure où je vous parle, des rumeurs tourneraient sur un potentiel remake de la saga. La question se pose alors, comment Freddy a-t-il réussi à marquer si rapidement l'imaginaire collectif? La réponse se trouve dans le premier film, A Nightmare on Elm Street, également connu en France sous le titre de Les Griffes de la Nuit. Avant d'aborder ce personnage complexe, revenons un peu sur le film Les Griffes de la Nuit. Nancy est une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur un homme au visage brûlé, avec un vieux pull déchiré et 5 lames tranchantes à la place des doigts. Elle constate d'ailleurs que parmi ses amis, elle n'est pas la seule à faire ses mauvais rêves. Mais bientôt, l'une d'entre eux est sauvagement assassinée pendant son sommeil, et c'est ainsi que le groupe fait la connaissance de l'ignoble Freddy Krueger. Watch this. Celui-ci se sert de cauchemar pour assassiner les gens qui rêvent de lui. Nancy comprend alors qu'elle n'a plus qu'une seule solution. Si elle veut rester en vie, elle doit rester éveillée. La terreur de cette saga repose sur un concept à la fois simple et redoutablement efficace. Alors que par exemple on peut éviter de se baigner pour échapper aux requins des dents de la mer, il est impossible de ne pas dormir. Le sommeil, qui est normalement un refuge apaisant et le lieu de nos rêves, se transforme ici en une véritable menace mortelle. Et pour triompher, il faut affronter ses propres peurs et défier Freddy dans le monde de ses cauchemars. On parlait de son visage brûlé et de ses griffes tranchantes, mais d'autres éléments contribuent au caractère distinctif de Freddy. Parmi eux, son pull déchiré à rayures rouges et vertes, deux couleurs complémentaires, c'est-à-dire à l'opposé sur le cercle chromatique, créent une dissonance qui saute tout de suite à l'œil. En analyse d'ailleurs, le rouge évoque la couleur du sang, tandis que le vert renvoie à la notion de maladie. Et ces deux couleurs, en plus d'annoncer un danger imminent pour les personnages, servent de signaux récurrents pour indiquer aux spectateurs la présence de Freddy dans les cauchemars. D'autres éléments dissonants signalent d'ailleurs la présence de Freddy, comme une comptine mignonne chantée par des enfants, ou bien un élément surnaturel préalable faisant basculer le rêve dans le fantastique. Cela peut être des cailloux lancés à votre fenêtre, le cadavre de votre ami traîné sur le sol, ou bien le fantôme d'une vierge qui vous demande de la rejoindre. D'ailleurs, entre nous, si le fantôme d'une vierge vous demande de la rejoindre, ne le faites pas, voilà, si vous voulez rester en vie. Wes Craven a aussi délibérément veillé à ne pas susciter d'empathie envers ce personnage. Avant de devenir un démon, Freddy est un tueur d'enfants, et désormais, en tant que monstre des rêves, il poursuit sa mission meurtrière. Cette distanciation est accentuée par le fait que Freddy prend du plaisir à tuer, voire à en rire. Cette attitude lui confère donc une aura d'invincibilité. Dans le royaume des cauchemars, Freddy règne en maître, s'adonnant parfois à l'automutilation, se retirant le visage, se coupant des doigts, pour nous montrer que même la douleur ne peut le stopper. Cette violence graphique par l'automutilation donne à Freddy un certain humour noir. Humour noir d'ailleurs qui sera perpétué dans ses crimes en plaçant le personnage face à ses peurs les plus profondes. Cela est d'ailleurs beaucoup plus exploré, je trouve, dans les suites. Par exemple, une fille qui a peur des insectes qui va se retrouver transformée en insecte, ou bien une toxico qui va voir Freddy avec des aiguilles à la place des griffes. Donc c'est censé être drôle, j'imagine. Enfin, Freddy rigole beaucoup en tout cas, donc ça veut dire que c'est censé être drôle. Mais quel message Wes Craven, un brillant cinéaste, a-t-il souhaité véhiculer à travers ce film ? Et si Freddy était bien plus qu'un simple tueur ? Et si Freddy était une allégorie ? En réalité, Freddy Krueger incarne la dépression qui touche de nombreux jeunes adolescents. Ces jeunes grandissent dans l'ennui d'une petite ville perdue des États-Unis, Springwood, dépourvue de perspectives d'avenir. Les parents semblent d'ailleurs être complètement indifférents aux avertissements de leurs enfants concernant la menace de Freddy, parfois submergés par l'alcoolisme ou absorbés par leur travail. Il est d'ailleurs révélé plus tard dans le film que les parents ont eux-mêmes dû affronter Freddy lorsqu'ils étaient jeunes, symbolisant la perpétuation de ce mal de génération en génération, si on n'en parle pas. Freddy incarne donc la figure de la dépression et de l'automutilation, des luttes auxquelles de nombreux jeunes succombent sans que la police ne puisse comprendre la situation. Comme c'est souvent le cas en période dépressive, ces jeunes recourent à la drogue pour éviter de dormir, souffrent d'insomnie pour échapper à Freddy, mais aussi pour fuir leur pire cauchemar. Mais tout de même, ils parviennent à survivre en se regroupant à la fin, et Nancy trouve une forme de salut en ayant une conversation profonde avec sa mère. En conclusion, l'ascension de Freddy Krueger en tant qu'icône du cinéma est le résultat d'un mélange habile de facteurs cinématographiques, de design de personnages et de réflexions sur les peurs profondes de la société. Sa silhouette emblématique, ses cauchemars terrifiants qu'il crée, ou bien son rôle en tant qu'allégorie de la dépression et angoisse des adolescents ont contribué à son statut légendaire. Au fil des décennies, Freddy est passé de simple tueur à une figure culturelle emblématique, laissant une empreinte indélébile dans le monde du cinéma d'horreur. Sa capacité à évoquer les peurs intérieures tout en divertissant le public, avec une légère touche d'humour noir, a assuré sa place durable parmi les grandes icônes du 7ème art. Et à l'heure où je vous parle, Freddy Krueger continue à hanter les rêves et les cauchemars du public, témoignant de la puissance du cinéma pour créer des personnages inoubliables. Et ça va être l'instant storytime, pourquoi j'ai décidé de parler de Freddy Krueger dans le premier épisode de ce podcast. Eh bien tout simplement, Freddy Krueger a été ma première frousse de cinéma, la première fois où j'ai vraiment eu peur devant un film, et je vais vous expliquer plus en détail. Jadis, il fut un temps, il y a de cela des centaines d'années, je fus jeune, et alors que je grandissais et que je rentrais dans l'âge de l'adolescence, j'avais besoin de ce petit frisson, j'avais besoin un peu de sensations fortes devant des films. Et quoi de mieux que le cinéma d'horreur pour vous procurer ces sensations. Je commence alors par des petits films d'horreur, je me rappelle d'un film qui s'appelle Joshua, voilà, sur un enfant qui est jaloux de son petit frère et qui donc va tuer sa grand-mère. Ça n'a aucun sens ce film, et d'ailleurs il est super nul. Et je passe aussi par d'autres classiques du cinéma d'horreur, mais ce qui est particulier avec le cinéma d'horreur, c'est que certains films peuvent vous laisser en dehors si tu n'es pas sensible aux peurs qu'ils proposent. Par exemple, Vermine, actuellement aussi cinéma, si tu n'as pas peur des araignées, tu vas pas avoir peur du film, hein, tout simplement. Et alors je me tourne vers mon père, qui lui est un peu plus connaisseur, hein, de ce genre-là, et il me dit que lui aussi, jeune, il fut un temps, il avait été traumatisé devant les griffes de la nuit. Je me dis alors, bah, les griffes de la nuit, il a été traumatisé, pff, le loser, quoi, vraiment.
Oh non, c'est horrible.
Ah. Je me dis, lui, il a eu peur, mais moi, je vais pas avoir peur, parce que je n'ai peur de rien. La preuve, j'ai regardé plein de films, et j'ai pas eu peur. Et je décide donc de regarder Les Griffes de la Nuit. Je me rappelle très bien que je suis en 5ème à ce moment-là, et pourquoi je me rappelle ? Parce que pendant une année entière, j'ai eu du mal à m'endormir. Pendant une année entière, j'avais peur que Freddy vienne me découper dans mes rêves, et donc bah, je faisais des petites nuits, j'étais très fatigué en cours. Je somnolais carrément en cours. Mais alors comment tout ça s'est terminé ? C'est que je me suis rendu compte d'un constat qui était que le matin j'allais très bien, j'étais pas découpé, j'avais pas de marques bizarres, la preuve donc que Freddy n'existait pas dans la vraie vie. Et une nuit je décide d'affronter Freddy dans mes rêves, d'affronter mes propres peurs en fermant tout simplement les yeux. Et cette nuit-là, je me rappelle très bien, je me rappelle d'ailleurs très bien du rêve aussi, je rêve de Freddy. Bon, c'est pas trop un hasard parce que toute la soirée, je pensais que à affronter Freddy dans mon rêve. Bon, forcément, quand tu penses à Freddy toute la journée, il finit par apparaître dans tes rêves. Et je me rappelle lui avoir pété la gueule, vraiment, je l'ai explosé au sol. Et après, je n'ai plus eu peur de Freddy. Donc, vous l'aurez compris, Les Griffes de la Nuit est un film marquant dans ma cinéphilie. C'est un film qui tantôt m'a traumatisé quand j'étais petit et qui maintenant m'accompagne. Et je prends toujours autant de plaisir à le regarder, cette fois-ci, avec le sourire et en aimant bien analyser les biais cinématographiques utilisés pour nous faire peur, que je vous ai d'ailleurs expliqué. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, enfin de cet épisode. Je vous l'accorde, je sais pas trop quoi faire de ce podcast, c'était un peu un épisode de test pour voir si ça vous plaît. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu de parler de ce personnage qui m'a énormément marqué. D'ailleurs, si vous voulez que je parle d'un autre personnage dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram, Twitter, enfin X. Et attention, en ce début d'année, n'oubliez pas que les monstres ne meurent jamais. Donc je vous laisse avec les paroles de cette petite comptine qui, je l'espère, vous permettra d'échapper aux croque-mitaines.
Chez toi, 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, surtout ne dors pas la nuit, 9, 10, il est caché sous ton lit.